Rebonjour à toutes et à tous. Je vais introduire déjà les participants à la table ronde pour essayer de gagner un petit peu de temps. Tout d'abord, donc, de les remercier vivement de leur présence donc, à ce colloque. Et donc, pour parler donc, de ce deuxième thème, déjà lié assez étroitement au premier, à savoir exposer l'antisémitisme en Europe. Donc, c'est le thème de la deuxième table ronde, pour lequel donc, nous avons cette fois-ci donc, comme intervenant, je prendrai là aussi dans l'ordre alphabétique, je débuterai donc par Hetty Berg, que je remercie vraiment chaleureusement de sa présence depuis Berlin. Donc, Hetty Berg est la directrice du Jüdisches Museum Berlin, donc le musée juif de Berlin, depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, elle a pris cette direction après avoir été longtemps à la fois conservatrice et commissaire d'exposition au Joods-Historisches Museum d'Amsterdam, donc une institution également très importante dans je dirais, dans le cercle des musées juifs européens, qui a longtemps même fait référence en la matière. Donc, après cette expérience à Amsterdam, donc depuis un peu plus d'un an, elle est maintenant à Berlin. Et donc, c'est à cette occasion-là qu'elle a pu notamment ouvrir le nouveau parcours permanent du musée juif de Berlin, dont peut-être elle nous parlera, peut-être pour savoir si ça a été l'occasion d'une nouvelle réflexion sur ces questions d'antisémitisme. Deuxième personne que je vais présenter également rapidement est Paul Salmona, que je remercie également, alors depuis Paris cette fois-ci. Paul Salmona est le directeur du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris depuis 2013. Et avant cela, il a été à la fois au musée du Louvre, à la programmation auditorium, et puis à l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive. Dernier intervenant que je présente ici aussi rapidement, Darius Stola, depuis Varsovie. Donc, vous voyez, c'est une table ronde particulièrement internationale. Donc, je remercie également. Darius Stola est professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire de la Shoah, plus spécifiquement de l'histoire de la Shoah en Pologne, et également des relations entre juifs et polonais. Et il a été, entre 2014 et 2019, le directeur du Musée d'histoire des Juifs de Pologne, POLIN, de son acronyme, institution qui est tout à fait, enfin, dont j'irais le projet et l'ouverture a été un moment majeur, il y reviendra probablement, dans l'histoire de ses relations judéo-polonaises. Il reviendra peut-être aussi sur la question de son départ en 2019. Et puis, dernière personne que je présente est Tal Brotman. Tal Brotman va être le discutant de cette table ronde et je le remercie également chaleureusement de sa présence. Tal Brotman est historien, également spécialiste de l'histoire de la Shoah, et notamment de l'histoire du camp d'Auschwitz. Et il intervient régulièrement sur tout un ensemble de sujets. Et je pense qu'ici, il aura à la fois sa casquette d'historien, et puis aussi pour élargir les questions qui seront posées dans le cadre de cette table ronde, donc, qui est sur exposer l'antisémitisme en Europe. Entre-temps, je vois que l'interprétation a été mise en... Voilà, fonctionne. Donc, tout devrait bien aller. Je laisse tout de suite la parole à Tal Brotman.
Merci Mathias, merci à Mathias et Régis pour l'invitation. Très rapidement, pour essayer de faire une liaison avec ce qui a été évoqué lors du premier échange entre Pape Ndiaye et Michel Vivorca et la première table ronde, il y a quelque chose qui est intéressant au regard de ce qui a été dit et de ce qui va être maintenant évoqué, c'est que nous avons trois intervenants qui sont ou ont été à la tête de musées consacrés à l'histoire juive, et ce qui induit la question. Et cette induction pose question, d'une certaine façon, la question de l'antisémitisme. Or, nous intervenons après une table ronde qui était consacrée à l'histoire de la Shoah, histoire de la Shoah qui écrase littéralement l'histoire des Juifs, puisque, en général, quand on évoque les Juifs, on pense immédiatement à la Shoah avant de réfléchir à l'histoire des Juifs, et je vais y revenir très rapidement. Mais justement, c'est l'idée qu'il y ait des musées consacrés à l'histoire des Juifs est souvent écrasé par cette histoire de la Shoah, et je pense que si on s'amusait à compter les institutions, musées ou mémoriaux consacrés au sujet, il y a infiniment plus de musées dédiés à l'histoire de la Shoah, sous toutes ses déclinaisons, depuis le mémorial de la Shoah à Paris, par exemple, jusqu'à Auschwitz, en passant par le United States Holocaust Memorial, plutôt que les musées consacrés à l'histoire des Juifs. Alors que, et il convient de le souligner, si on prend par exemple le cas de Berlin, il existait un musée juif qui a été créé au début des années 30 et qui évidemment a disparu par la suite pour des raisons évidentes. Maintenant, avant de rentrer directement et de laisser la parole aux intervenants, il y a quelques points justement que j'aimerais évoquer en amont et qui peuvent éventuellement nourrir la conversation. C'est la contrainte qu'il y a, qui est amenée par l'antisémitisme quand on évoque l'histoire des Juifs. Autrement dit, l'histoire des Juifs se trouve obligée d'évoquer l'histoire des persécutions. Alors parfois de façon évidente, quand on parle de Pauline, évidemment que cette histoire-là s'est terminée avec la Shoah en 1942 et que la présence des Juifs à Varsovie ou en Pologne a été annihilée. On peut reproduire la même chose, par exemple, pour le musée de Berlin avec une autre forme d'histoire, puisque là, on a un paradoxe. La communauté juive en Allemagne croît de nouveau depuis 2 décennies. Mais à chaque fois, l'antisémitisme, dans ses différentes variations jusqu'à l'acmé qu'est la Shoah, vient contraindre l'histoire des Juifs. Et je pense que Paul Salmona pourra évoquer tout à l'heure également la manière dont l'antisémitisme a modelé, mais c'est valable pour tous les territoires, l'histoire des Juifs de France, puisque les Juifs ont été expulsés de France avant d'y revenir, et on peut multiplier les exemples comme ça. Et dernier point pour faire la liaison avant de céder la parole aux 3 intervenants, il y a quelque chose qui me paraît intéressant de souligner et qui a été évoqué par Annette Vivorca et qu'on retrouve dans certains des musées dédiés à l'histoire des Juifs, c'est le côté, on va dire, mémoriel, même s'il ne paraît pas évident, on ne saute pas aux yeux immédiatement. Sur les 3 institutions qui sont représentées ici, on en a 2 dont l'emplacement a été choisi notamment parce que mémoriellement, il coïncide avec une histoire juive tragique par ailleurs, l'hôtel de Saint-Aignan à Paris pour le Maage, et évidemment Pauline qui se trouve face au monument des combattants du ghetto à Varsovie. Et donc cette dimension mémorielle et mémoriale, elle est même présente dans ces musées qui devraient être consacrés exclusivement à l'histoire des Juifs et qui se trouvent liés à l'histoire de la violence contre les Juifs. Alors, il me semble que, étant donné que nous avons des représentants de 3 générations de musées différentes, le Maage étant le plus ancien, Pauline étant plus récent et le musée juif de Berlin étant non pas le plus récent, mais il y a une nouvelle exposition qui a été inaugurée, Mathias l'a rappelé. Commencer en ordre chronologique inversé, c'est-à-dire céder d'abord la parole à Etiberg, ensuite à Dariush Tola qui évoquera lui aussi un certain nombre d'aspects et peut-être aller, comme tu l'as dit, Mathias, sur des questions plus politiques ou plus liées à l'histoire contemporaine et terminer avec Paul Salmona. Chaque intervenant aura en gros une dizaine de minutes et ensuite on prendra les échanges et d'éventuelles questions.
Hello, everyone. First of all, thank you very much for the invitation and nice to see you all here. Talking about the Jewish Museum Berlin.
Je vais donc parler du musée juif à Berlin. Ce musée est un musée national qui raconte l'histoire de 1700 ans de participation et de vie des Juifs sur le sol allemand à partir d'une perspective juive. Même si aujourd'hui notre sujet est l'exposition de l'antisémitisme dans les musées juifs et que nous nous trouvons sur la terre des auteurs de la Shoah, ce n'est pas un musée sur l'Holocauste. Ce n'est pas la fonction de notre musée. Donc, je souhaitais le dire avant tout, ce n'est pas un musée sur l'Holocauste. Dans notre musée, nous racontons l'expérience des Juifs en Allemagne. Cette histoire est une histoire de coexistence et d'exclusion. L'antisémitisme fait partie intégrante de l'histoire des Juifs et des Allemands ensemble, mais ce n'est pas le seul élément défini. Lorsque nous parlons de l'antisémitisme, il ne s'agit pas seulement de la période 1933-1945, mais cela peut remonter au Moyen Âge, les accusations d'empoisonnement de puits d'eau, et ainsi que l'attaque à l'encontre de la synagogue de Halle en 2019. Je vous donnerai quelques exemples. L'antisémitisme est un phénomène complexe et compliqué à expliquer. Nous avons recours à cette citation de Théodore Adorno qui dit « L'antisémitisme, c'est la rumeur que l'on fait courir sur les Juifs ». Cette citation traite du fait que l'antisémitisme n'est pas une discussion factuelle à l'égard des Juifs, mais il s'agit de projections irrationnelles. Rien ne concernant les textes et les images antisémites n'est la vérité. Donc, nous traitons cette question de l'antisémitisme dans notre exposition principale avec des stratégies bien particulières, des objets originaux, des plans, des cartes et des posts audio et vidéo et des photographies. Tous ces moyens traditionnels d'exposition sont complétés par des possibilités d'échange, de discussion, de remise en cause et de se remettre en cause. Cette exposition principale est divisée en 5 périodes. Dans chacune d'elles, l'antisémitisme est traité dans le cadre de l'histoire plus globalement. Nous avons donc le Moyen Âge, les temps modernes, l'époque contemporaine, l'émancipation, la Shoah et après 1945. Chaque époque est axée sur différents aspects de l'antisémitisme et je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, donc le Moyen Âge, l'exposition centrale explique comment les Juifs vivaient en tant que minorité religieuse dans un environnement chrétien et explique les sentiments anti-juifs religieux. Donc, nous avons par exemple des sculptures sur le thème synagogue et église. Dans un petit film, nous expliquons ce que signifient ces figures. Et je vous montrerai le clip, j'espère, dans une minute. Donc, ces représentations synagogue et église se trouvent dans de nombreuses églises et symbolisent les religions chrétiennes et juives. Généralement, l'église est triomphante alors que la synagogue a les yeux bandés et qu'elle est symbolisée comme refusant d'accepter la vérité. Et donc, les manuscrits juifs incorporaient et transformaient ces symboliques visuelles. Ces traits, donc, ont été recadrés pour devenir une identité juive positive. Je vais essayer de vous montrer ce que j'entends par là.
On many churches, sur de nombreuses églises, on voit les représentations d'Ecclesia et synagoga. Ils symbolisent les religions chrétiennes et juives. Au Moyen Âge, les églises dominaient l'espace public et les vues chrétiennes du judaïsme sont reflétées dans l'architecture et les éléments décoratifs. Ici, dans ce vitrail, Ecclesia apparaît comme une reine victorieuse. Elle personnifie la supériorité perçue du chrétienté. La main de Dieu s'étend vers elle pour la bénir. En tant qu'église triomphante, elle porte un drapeau et le calice de la communion. Et elle est assise sur un animal dont les pieds et les mains représentent les 4 évangiles. Synagoga, par contre, apparaît les yeux bandés et assise sur un âne. La main de Dieu fait tomber sa couronne, puisque les Juifs refusent les leçons de la chrétienté. La tête de chèvre dans la main de synagoga représente l'adhésion têtue aux lois que Moïse a reçues sur le Sinaï. Comme Ecclésia, Marie représente la communauté chrétienne. Dans cette Bible, on la voit assise à côté de Jésus en couple dévoué. Dans sa main, elle porte un calice de la communion. Les manuscrits juifs transformaient ces motifs. un verset du Cantique des Cantiques illustrait souvent les livres de prière juifs. Synagoga, qui représentait le judaïsme, porte une couronne et l'anneau jaune qui l'identifie comme juive. Dieu est assis à côté d'elle avec un chapeau juif. Les symboles chrétiens sont repris en tant qu'éléments d'une identité juive positive. Ici, le marié apparaît même agenouillé devant Israël, sa mariée qui porte une couronne. En représentant les deux en une seule figure, les illustrateurs juifs rejetaient les vues chrétiennes des juifs. Voilà. Alors ici, c'est pour illustrer, et j'y reviendrai tout à l'heure, que l'on essaye toujours de montrer le pouvoir juif pendant toute cette époque au lieu de montrer les juifs seulement comme l'objet de l'antisémitisme, mais vraiment montrer comment les juifs géraient ce contexte. Maintenant, nous allons passer à la période, à l'époque moderne. Ici, nous expliquons le chemin vers l'émancipation et les nouvelles voies ouvertes aux Juifs dans le monde économique et industriel. Mais ce progrès social a lieu en même temps qu'un nouvel antisémitisme politique et racisé qui freinait l'émancipation des Juifs, par exemple à l'armée, mais aussi dans la haute société allemande. Ici, nous montrerons le rapport entre les Juifs et Wagner et le dilemme entre l'amour de sa musique et l'indignation face à son antisémitisme. Donc, on fait une distinction entre l'œuvre et l'artiste. Oui, donc on parlait de la relation entre les Juifs et Wagner. Et dans un interview de Daniel Barenboim et Barajkowski, il y a deux perspectives contemporaines qui regardent la musique, le fait de jouer la musique de Wagner en tant que juif. Et on ne donne pas une bonne réponse. Au lieu de cela, nous présentons deux perspectives pour que le visiteur puisse faire son opinion à lui ou elle-même. Ensuite, troisième époque, la catastrophe, comme on l'appelle ici, la Shoah. Nous regardons le rejet radical des Juifs dans l'Allemagne nationale-socialiste et comment leur persécution a été inscrite dans la loi. Ici, une installation qui montre les 962 lois anti-juifs qui ont été votées sous le Reich d'un côté de la pièce. Et en face, il y a une carte interactive qui montre les violences contre les juifs. Entre les deux, nous racontons des histoires concernant la manière dont les juifs essayaient de faire des choix dans une situation désespérante. Autrement dit, nous essayons de donner des perspectives juives au lieu de simplement donner la perspective des perpétreurs. Ici, il y a les matériaux qui sont les supports qui ont été choisis sont très importants. Et dans la dernière époque, post-1945, on invite les visiteurs à entrer dans une salle de débat qui parle des études de cas concernant l'antisémitisme vus par des petits films. Ces cas d'études sont exposés et on demande aux visiteurs de former leur propre opinion à base de ces études de cas. La salle de débat parle de la question « Quel est l'antisémitisme en réalité ?» Il y a des exemples de l'antisémitisme qui sont présentés par thème, y compris les incidents ambivalents qui sont difficiles à classifier. Ainsi, on focalise non seulement sur les formes claires et bien connues de l'antisémitisme, mais également sur le caractère antisémitique de certains cas qui pourraient être débattus. Et cela demande aux visiteurs de de réfléchir à la complexité du sujet d'antisémitisme. Et je vais vous donner l'explication de ces études de cas. D'abord, les images anti-juifs. Par exemple, l'exemple d'un bas-relief de truie juive du Moyen-Âge dans une église à Wittenberg. On parle des thèmes anti-juifs historiques dans la ville d'aujourd'hui. Et là, la question est la suivante. Est-ce que le bas-relief de l'église de Wittenberg devrait être enlevé? Deuxième étude de cas, la question concernant la circoncision des garçons. Le film a été fait en 2012 après un incident concernant la circoncision d'un garçon turc à Cologne. Et la question est-ce que les opposants à la circoncision sont-ils antisémites? L'étude de cas numéro 3, les jurons. Toi, le juif, est utilisé comme juron dans les écoles allemandes. Et il y a une vidéo sur la question de est-ce que ce serait antisémite d'appeler quelqu'un « toi le juif ». Quatrième cas d'étude, l'antisémitisme et le racisme. La vidéo compare des aspects des deux idéologies et les différences. Et la question est, l'antisémitisme est-il une forme de racisme? Après avoir choisi et visionné une de ces études de cas, les participants sont invités à répondre par oui ou non. Et ensuite, une évaluation statistique est montrée qui montre les positions de vote d'autres visiteurs. Ensuite, deux experts commentent les études de cas et donnent des arguments pour le oui et pour le non. Et à la fin, on demande de nouveau aux participants de donner un oui ou un non et on regarde la question, est-ce que leur réponse a changé? Et vous pouvez visionner vous-même ces petites vidéos sur notre site web. Donc, nous proposons également des ateliers sur l'antisémitisme dans toute la collection permanente qui se termine par cette salle de débat. Et depuis le début de la pandémie, nous utilisons également ces petites vidéos pour la pédagogie en ligne. Pour conclure, notre nouvelle collection permanente présente différentes manières de comprendre la complexité de l'antisémitisme dans son contexte historique et de faire en sorte que l'expérience muséale soit une occasion d'apprendre et de prise de conscience. Nous sommes convaincus que ces expositions, que l'exposition elle-même fonctionne très bien, mais les programmes pédagogiques sont également très importants. C'est un plus, particulièrement quand il s'agit d'apprendre aux visiteurs de comprendre l'antisémitisme. Merci. Merci, Eti. Maintenant, nous allons entendre Darius Stola, s'il est là. Darius, vous avez la parole. Merci et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis désolée de ne pas parler français, mais je fais partie de l'hégémonie anglo-saxonne. Ma connaissance du français a complètement disparu, donc je vais parler anglais. Je suis également très heureuse de parler juste après Hetty Berg. J'allais répéter exactement son introduction en vous expliquant que le Polin n'est pas un musée sur l'Holocauste. Nous présentons 1000 ans d'histoire de juifs. Nous partageons l'histoire et nous partageons l'histoire nous partageons l'histoire juive. Mais j'aimerais également dire que je ne suis pas d'accord avec Hetty. Avec Mathias, pardon. Quand vous avez dit que Pauline était dans un lieu spécifique du ghetto, en fait, le musée est en face du mémorial au ghetto. Le Judenrat du ghetto était près de là. Mais l'histoire du ghetto fait partie d'une histoire beaucoup plus longue. Alors, en réfléchissant au lieu, pourquoi avez-vous choisi cet endroit? Pourquoi ne pas penser à 1920, par exemple, quand Varsovie était la plus grande métropole juive de l'Europe? Il est difficile de présenter l'histoire juive dans les lieux qui font écho à ces lieux, ces événements dramatiques. C'était également compliqué pour les visiteurs parce que généralement, ceux qui viennent au Pauline connaissent très peu l'histoire juive. La plupart, quand ils connaissent quelque chose de l'histoire juive, c'est le Holocauste. Et la plupart pensent qu'ils viennent dans un musée au Holocauste. Et nous expliquons que ce n'est pas le point principal. Le musée Pauline n'est pas que un musée du Holocauste, mais doit évidemment présenter également le Holocauste. En fait, la galerie consacrée à la Shoah est la plus grande des 8 galeries. Donc, nous expliquons que nous ne sommes pas un musée du Holocauste, mais nous devons quand même présenter l'Holocauste, puisqu'il s'agit d'un chapitre très important dans l'histoire juive, mais pas la dernière histoire. L'histoire juive ne s'est pas terminée en 1943. Et je pense que cette petite introduction vous montre la complexité, non seulement du fait d'avoir un musée juif à Varsovie, mais en Europe de l'Est en général. Les Juifs de l'Europe de l'Est faisaient partie étaient la plus grande partie des victimes. Sur les 6 millions de victimes, 3 millions de Juifs ont été polonais. C'est important de le rappeler.
Je vais revenir donc à la question d'origine qui était: qu'est-ce que nous faisons pour expliquer tout ceci? Mais la question est: quelle quantité d'espace devons-nous accorder à l'antisémitisme dans nos musées? Et c'est une question légitime. Quand on m'a posé la question en tant que directeur de musée, est-ce que vous présentez suffisamment l'antisémitisme? Ne le dissimulez-vous pas? J'ai élaboré une réponse qui était la suivante. Nous ne sommes pas le musée de l'antisémitisme. Les antisémites, s'ils veulent des musées, n'ont qu'à les créer eux-mêmes. Cela étant dit, comme les antisémites et les personnes qui sont motivées par la haine contre les juifs et les idées, comme ces personnes ont une influence sur la vie des juifs à de nombreuses reprises, nous devons également exposer l'antisémitisme qui fait partie de l'histoire des juifs et des non-juifs. C'est une histoire non-juive qui est importante dans le cadre de l'histoire des Juifs parce que ceci a fourni un contexte important concernant l'histoire des Juifs. Donc, il y a eu une controverse à ce sujet, mais ce n'est pas le seul facteur qui a façonné le débat sur les expositions futures. Je vais vous donner quelques principes qui guident nos options. Il y a des choses qui sont antisémites, et attention, il y a aussi anti-juifs. Ce serait un anachronisme. Au 19e siècle, ce n'était pas le cas. la haine était une haine anti-juive, c'était différent du 15e et du 17e siècle. Donc, tout d'abord, notre musée est un musée qui raconte l'histoire des Juifs. Annette Vivorka a dit que les musées étaient comme des interfaces entre le passé et le public, mais il y a différents types d'interfaces. Dans le cas du Pauline, en tant que musée qui raconte une histoire, c'est une historiographie par d'autres moyens. Donc, il y a quand même un fond historique narratif, parce que nous pensons que les connaissances élaborées par les historiens sont la meilleure base pour raconter l'histoire du peuple juif. Les historiens connaissent le passé mieux que les non-historiens. Donc, l'historiographie se traduit ensuite par un langage visuel. Ce qui concerne la narrative historique et le fait de la mettre en avant est que rien ne se situe pas dans le temps. Tout se situe dans le temps. Nous avons des sections historiques, nous avons débattu pendant très longtemps s'il fallait avoir une salle séparée pour discuter de que sont les Juifs, qui sont les Juifs, qu'est-ce que le judaïsme. Et nous pensions que ce serait une histoire fausse, parce que le judaïsme était différent, a eu des sens différents selon les époques. Donc en fait, le judaïsme se définit comme quelque chose de spécial selon les époques. Donc nous n'utilisons pas le terme antisémitisme avant le XXe siècle. Pogrom, nous ne l'utilisons pas avant. La violence anti-juive, nous avons toujours une perspective et donc le vocabulaire que nous employons dépend de l'époque qui est abordée. Nous pensons que les visiteurs peuvent accumuler des connaissances sur l'histoire des Juifs et l'histoire du sentiment anti-juif de façon progressive au fil des différentes galeries qui progressent dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous fournissons des informations sur qu'est-ce que cela signifiait d'être juif dans la Cracovie du XIVe siècle, ou qu'est-ce qui était anti-juif dans l'environnement de la communauté juive, et pour la galerie médiévale, l'anti-judaïsme, d'ailleurs, on en a déjà parlé, Eddie Berg en a parlé. Nous, ce n'était pas l'opposition église-synagogue, mais nous, c'était plutôt la servitude des Juifs par rapport à l'Église. Et les Juifs étaient des servants de l'Église et payaient des impôts à cette Église. Et ça, c'était un facteur qui a été quand même très important. Mais les Juifs recevaient en échange une protection royale. Et donc, ils ont permis d'alimenter la couronne polonaise en impôts et donc de l'enrichir. Donc, il y a différents aspects. Par exemple, nous avons présenté une statue de 1264 qui protégeait les Juifs contre des accusations. Et donc, le monarque devait protéger ses sujets juifs. C'est un exemple. Un autre principe de conservation que nous utilisons et que nous cherchons à faire des expositions qui montre les opinions divergentes, le fait qu'elles ne vont pas disparaître, et donc nous cherchons à mobiliser, à engager la discussion avec diverses opinions. Nous donc posons pour principe que l'antisémitisme est une opinion fausse. Mais nous ne voulons pas non plus que les antisémites fixent notre programme et décident pour nous. C'est à nous de le décider. Et donc, c'est nous qui choisissons le moment et le lieu où défier les idées antisémites. Donc, il s'agit là d'un engagement constructif et de la construction d'une zone de confiance pour les visiteurs. Nous souhaitons que les visiteurs établissent un lien de confiance avec l'exposition sans pour autant leur imposer une narration canonique décidée de haut. Et nous laissons le visiteur élaborer une réponse qui lui permettra de se faire sa propre idée. Un autre principe est de raconter comment plutôt que pourquoi. Donc, on ne dit pas quelle forme prenait la persécution des Juifs et nous n'expliquons pas pourquoi des non-Juifs ne l'ont fait. Si on comprend le comment, on pourra répondre au pourquoi. Et donc, nous pensons que c'est une façon plus fiable pour trouver des réponses. Donc, l'apprentissage par l'exploration nous semble beaucoup plus fructueuse que l'apprentissage par l'imposition. Donc, évidemment, nous choisissons en tant que conservateurs des sujets, des thèmes, etc. Mais nous cherchons à influer le moins possible sur la réflexion du spectateur. Je vois qu'il me reste que quelques minutes, donc je vais vous donner quelques exemples. L'anti-judaïsme du Moyen-Âge était ambigu. Et les enseignements de l'Église par rapport au judaïsme étaient que les Juifs étaient des serviteurs, étaient inférieurs, mais ils étaient protégés. Et donc, un moment important de l'histoire est 1648, le soulèvement. Ça a été un événement pilier dans l'histoire des Juifs. Et ceci montre un couloir, donc nous l'exposons comme un couloir sombre qui fait se sentir claustrophobe. Et nous faisons une présentation sur l'alliance économique entre les Juifs et la noblesse économique, car les Juifs étaient en effet les gestionnaires du patrimoine des nobles. Ce n'étaient pas des exploiteurs économiques, mais c'était les gestionnaires des biens des nobles. Et donc, à l'époque, l'Ukraine, aujourd'hui la Pologne, il y avait donc des attaques contre les nobles, mais également contre les Juifs, puisque c'était eux qui géraient les biens des nobles. Il y a également des divisions de classe très importantes, la classe bourgeoise, petite bourgeoise et autres, et les paysans. Par ailleurs, nous montrons le renouveau de l'intolérance religieuse avec la contre-réforme à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. Nous montrons des tableaux de la cathédrale de Sandomierz. Et encore une fois, nous mettons ceci en regard avec des citations du pape afin de montrer les messages contradictoires de l'Église et la réalité. Et enfin, nous avons une autre salle qui rend extrêmement claustrophobe et qui traite de la fin du 19e siècle, qui montre toutes les théories du complot qui ne sont pas du tout fondées sur la science. Nous montrons également les pogroms comme étant une version d'Europe de l'Est de la violence antisémite et qui se produit dans la partie russe de la Pologne. Dans cette galerie suivante, nous suivons la violence contre les Juifs, mais je pense que la représentation est insuffisante. Nous n'avons pas suffisamment montré les fondateurs de l'idéologie anti-juive polonaise moderne, c'est une idéologie qui est en train de gagner du terrain en Pologne. Et bien sûr, un musée est un signe des temps. Et il est vrai qu'aujourd'hui, la situation est assez différente. La galerie, donc, représentant la Shoah est la plus grande galerie. Ça me prendrait trop de temps d'en parler. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas que l'Allemagne nazie, antisémite, ce n'est pas ce qu'elle a apporté. Ça, c'est une invasion vers la Pologne. Mais pour tout le monde savait que les nazis étaient absolument terribles avec les juifs. Mais le problème en Pologne est la participation des chrétiens polonais qui ont exploité la situation fragile des Juifs en Pologne. Et c'est ça qui nous semble le plus important. Enfin, la galerie qui traite d'après la guerre, car en effet, la galerie de la Shoah n'est pas la plus importante. C'est la galerie qui traite de la violence après la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est un bon exemple de cette stratégie d'agonie. Nous montrons les faits bruts, des informations sèches, et ensuite nous montrons un journal communiste polonais qui explique que les Juifs cherchent à miner le nouveau gouvernement communiste. Et puis, il y a un autre journal qui dit qu'il s'agit d'une provocation des Juifs. Et par ailleurs, on fait croire que les Juifs collaboraient avec les Soviets parce que c'est leur nature. Et puis, on a signalé également que les Juifs seraient tellement surreprésentés dans le Parti communiste qu'ils avaient bien sûr une influence sur ce parti. Enfin, nous arrivons à la catastrophe morale. Et donc, nous laissons le visiteur se faire sa propre opinion à ce sujet. Je crois que j'ai terminé avec le temps qui m'était imparti. Et si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre.
Merci Darius. Je vais revenir à quelques points de votre discours et puis je vais vous poser une question très spécifique qui traite beaucoup de sujets, y compris la Pologne. Et ensuite, nous allons entendre Paul Salmona qui va parler du musée le match de Paris. Paul.
Merci Mathias de votre invitation, merci Tal. Alors, pour ma part, je me suis vraiment attaché au verbe « exposer », mais peut-être je reviens un instant d'abord sur la définition de ce qu'est le musée d'art d'histoire du judaïsme, en rebondissant sur les remarques d'Annette Wieworka tout à l'heure. Pour notre part, au MAJ, nous faisons assez clairement la différence entre un musée et un centre d'interprétation et un lieu de mémoire. Alors, le MAJ est d'abord un musée et un musée de collection qui conserve des œuvres, des items, des artefacts et non pas des facsimilés. C'est également, Tal Brutmann l'a dit tout à l'heure, un lieu de mémoire dans la mesure où l'hôtel de Saint-Aignan avant son rachat, enfin avant la Seconde Guerre mondiale, avant l'occupation, et avant son rachat par la ville de Paris en 1962, a été un lieu occupé très majoritairement par une population juive immigrée d'Europe centrale et orientale, qui était très active dans les métiers de la confection, tailleur, chapelier, fourreur, casquetier, etc. C'est un musée ouvert en 1998 qui a pour première mission d'évoquer l'histoire de la présence juive en France, puisqu'évidemment en Europe il est le seul à pouvoir le faire. Je partage tout de suite mon écran. Donc, pour commencer, et c'est la seule concession que je ferai véritablement à l'histoire, Tal, cette carte de la présence juive médiévale en France, telle que la toponymie la conserve encore comme une trace fossile à travers les noms des rues aux Juifs, rue de la Juiverie et toutes les variantes régionales que l'on peut trouver. C'est une présence qui date de l'Antiquité, qui a été très importante jusqu'aux expulsions médiévales. Alors, il y a eu plusieurs expulsions au Moyen-Âge, je n'y reviens pas. Et paradoxalement, cette présence très forte, qui a laissé une empreinte très forte sur le plan culturel dans la pensée médiévale et dans l'histoire européenne, notamment, on le sait, à travers Rachid, hein, Salomon, fils d'Isaac le Français, hein, Rabbi Shlomo ben Yitzhak Hatzarfati, qui vivait à Troyes, un grand commentateur de la Bible et du Talmud. Cette présence est très mal connue et nous parlons ici de tâches aveugles dans le récit national. Voilà la parution récente des actes d'un colloque que nous avions organisé il y a 2 ans et auquel d'ailleurs Mathias Dreyfus avait participé. Alors j'en profite tout de suite pour dire que le MAJ est un musée de collection, mais c'est aussi un musée du 21e siècle, en ce sens qu'il y a à la fois une collection permanente, des salles d'exposition temporaires qui ont un rôle essentiel, je vais y revenir, c'est d'ailleurs principalement de ça dont je vais parler, un service éducation et médiation qui joue un rôle essentiel, en particulier sur les questions d'antisémitisme, de préjugés, de discrimination, d'éducation à la citoyenneté, une bibliothèque importante spécialisée en histoire de l'art et de l'archéologie et d'histoire des Juifs de France, une librairie et un auditorium qui permet d'organiser des colloques comme ce colloque sur l'antisémitisme plus spécifiquement français organisé en 2016 dans le sillage de l'affaire de Créteil, je n'ai pas le temps de développer ici, mais qui a été tragiquement rejoint entre-temps par l'actualité. L'intérêt étant d'essayer de montrer les spécificités françaises de l'antisémitisme. Cela étant, ce qui m'a intéressé, moi, dans les questions posées par le colloque, c'est ce que nous pouvons montrer dans les salles et dans les expositions temporaires en matière d'antisémitisme. Parce que la collection du MAJ embrasse un territoire extrêmement vaste, hein, qui couvre l'Europe et tout le pourtour méditerranéen. C'est une collection internationale, à la différence de celle de nos collègues, de la plupart de nos collègues des musées juifs européens, qui sont focalisés sur l'histoire du judaïsme dans leur seul pays. Alors, une autre spécificité, c'est que le MAJ est situé à proximité du mémorial de la Shoah à Paris, dans le Marais, et que par conséquent, il n'a, j'ai envie de dire, pas besoin de prendre en charge massivement, majoritairement, cette histoire de la destruction des Juifs d'Europe, et que par conséquent, il peut se consacrer d'abord à la mise en valeur des productions culturelles et matérielles, hein, des sociétés juives, plutôt qu'aux discriminations et aux persécutions qu'elles ont subies. En ce sens, le MAJ se situe en quelque sorte à rebours d'une histoire lacrymale du judaïsme, pour reprendre la célèbre formule de l'historien américain Salo Baron. Autrement dit, dans la collection permanente, nous n'avons pas de section à proprement parler consacrée à l'antisémitisme. Nous préférons évoquer les cultures du judaïsme plutôt que leur anéantissement. Et comme je l'ai dit, à l'auditorium, en revanche, c'est des questions qui peuvent être abordées de manière beaucoup plus fréquente. Dans le parcours de la collection, seules 3 séquences évoquent explicitement l'antisémitisme. Alors, la fin du 19e siècle et l'émergence d'un antisémitisme moderne, je ne rentre pas dans les définitions, hein, de l'antisémitisme moderne en France, et notamment avec cette affiche, et c'est le seul véritable document antisémite du parcours, avec cette affiche d'Adolphe Léon Villette, candidat antisémite aux élections de 1889. Je ne la commente pas, j'en donnerai la traduction anglaise à nos amis Etty et Darius s'ils le souhaitent. Mais ça rappelle évidemment que l'antisémitisme avait à l'époque droit de cité dans l'espace public politique, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette affiche est présentée en regard de ce très beau portrait de Rachel, qui était la fille d'un colporteur juif alsacien extrêmement modeste et qui est devenue une des tragédiennes les plus importantes de la Comédie française, donc le grand théâtre national à l'époque, dans la première moitié du XIXe siècle. Et Rachel est véritablement emblématique de la capacité d'intégration de la société française de ces juifs qui avaient été émancipés par la Révolution en 1791. Et donc, évidemment, montrer ces deux documents, en l'occurrence, c'est une œuvre qu'on montre en face du document de l'affiche de Villette, c'est très intéressant parce que ça permet de montrer aux visiteurs ce phénomène nouveau qu'est l'antisémitisme à l'œuvre à la fin du 19e siècle. La seconde séquence, évidemment, c'est celle consacrée à l'affaire Dreyfus. Donc, vous voyez cette toute petite salle que nous consacrons à l'affaire Dreyfus à côté de l'affiche Villette et du portrait de Rachel. Mais là, c'est l'affaire Dreyfus dans sa totalité qui est évoquée, car la famille Dreyfus, la famille du capitaine Dreyfus, nous a donné énormément de documents. J'ai choisi cette photo parce que, évidemment, c'est la médiation qui nous paraît être le bon médium pour évoquer l'antisémitisme, plus que les documents eux-mêmes, comme on le voit là. Je voudrais ajouter que, au hommage, les médiatrices, comme Yaël Baranès, qu'on voit ici à gauche, ne se contentent pas d'aborder l'antisémitisme, mais aussi l'ensemble des préjugés, des discriminations, quelle que soit leur nature, ou l'identité de ceux qui les subissent, hein, bien entendu. Et bien sûr, elles évoquent les principes de la citoyenneté et du vivre ensemble, comme on dit maintenant, ou de la convivencia, comme on disait en Espagne. Alors j'en profite pour montrer quelques croquis d'audience absolument formidables que le musée a pu acquérir récemment en vente publique, 200 croquis d'audience du procès Zola et du procès Dreyfus en 1888 et 1889. Mais je ne m'appesantis pas. Enfin, troisième étape, en quelque sorte, dans le parcours permanent actuel, ce très beau tableau de Samuel Hirschenberg, peint à Munich en 1892, qui représente, intitulé « Le cimetière juif », et qui représente une scène de lamentation dans un cimetière juif polonais, après un pogrom, je n'ai pas besoin de développer. Pour le reste, les 900 mètres carrés du parcours permanent sont dévolus à des productions matérielles et artistiques des Juifs, de préférence à des items qui rappellent leur persécution. Et nous avons pour principe de ne pas acheter d'artefacts ni de documents antisémites pour réserver nos crédits d'acquisition à des achats d'œuvres. Mais bien sûr, nous acceptons les dons. Alors, en revanche, c'est la seconde partie de ma réponse à la question du colloque, comment exposer l'antisémitisme. Et cette notion revient de manière inexorable dans bon nombre d'expositions qui sont véritablement le moteur de la fréquentation renouvelée du musée. Alors j'en donne un certain nombre d'exemples, hein. Je crois que je n'ai pas besoin de développer sur Bruno Schulz, qui a été sauvagement assassiné en 1942 par la Gestapo, ni le cas de Charlotte Salomon, que je pense tout le monde connaît, mais que nous avons véritablement fait découvrir au public français. L'affiche de Superman au Chat du Rabbin est peut-être plus éclairante sur l'inscription combative, en quelque sorte, des dessinateurs américains contre le nazisme, mais plus globalement, l'exposition montrait la part singulière que des artistes juifs ont pris part à la création de la bande dessinée au XXe siècle.
Pardon, il permettra aussi de faire un lien avec Gretti Berg, qui avait participé à cette exposition. Pardon, je...
Tout à fait, Mathias, vous avez absolument raison. L'exposition avait été reprise ou coproduite, d'ailleurs je ne sais plus, je n'étais pas directeur à l'époque, mais par le Joods Historisch Museum d'Amsterdam. Je m'arrête un instant sur cette exposition intitulée « Moïse, figure d'un prophète » pour dire qu'elle évoquait la figure de Moïse à travers le temps, hein, des différentes représentations de la figure de Moïse, et notamment la manière dont cette figure a été appropriée par les Noirs américains à partir du XIXe siècle dans les combats pour l'affranchissement et puis ensuite pour la lutte pour les droits civiques. Et nous faisions un focus particulier sur cette alliance des Juifs et des Noirs dans les années 60. Et notamment, on a ici cette très belle photo d'une manifestation en 1968 contre la guerre du Vietnam, où on voit côte à côte le grand rabbin Samuel Joshua Heschel à côté de Martin Luther King et du rabbin Eisenrath qui tient les rouleaux de la Torah dans leur manteau. C'est une image vraiment très, très forte, très symbolique. Il y a aussi un pasteur à gauche, comme on peut le voir. Alors, je ne développe pas sur l'exposition à qui appartenaient ces tableaux, qui évoquent les œuvres spoliées en France et la question de leur restitution. L'exil de Joseph Roth, hein, ce grand écrivain viennois nostalgique des Habsbourg à Paris, où il dut s'exiler en 1933. Je n'évoque pas non plus en détail la splendeur des Camondo, cette famille de banquiers stambouliotes, originaires d'Istanbul, installés en France, qui ont été de très grands mécènes, qui ont été admirables dans leur générosité à l'égard de la nation française, notamment pour, par exemple, la construction du théâtre des Champs-Élysées, sans parler des legs aux musées nationaux, au musée d'Orsay notamment, enfin à l'actuel musée d'Orsay notamment, et dont la famille a entièrement disparu puisque leur dernière descendante, Béatrice, et ses enfants ont été déportés en 1944. Pas besoin de développer sur le sens d'une exposition comme Félix Nussbaum, qui a été aussi une découverte pour le public français. Alors, Juifs d'Algérie est une exposition plus ambivalente de ce point de vue, puisqu'à la fois, elle permettait de développer la capacité d'intégration de la nation française avec notamment l'histoire du décret Crémieux, qui en 1870 donne la nationalité aux Juifs d'Algérie, et en même temps, le pogrom de Constantine en 1934, 25 morts, et puis l'annulation du décret Crémieux en octobre 1940. L'exposition Marian, qui a fait découvrir cet artiste polonais, là aussi je ne développe pas, il est passé pendant la guerre par 7 camps successifs et il en est réchappé. Gottlieb, un des grands créateurs de bandes dessinées françaises de l'après-guerre, qui évoque dans de rares planches, de manière métaphorique d'ailleurs, la déportation de son père et puis sa vie misérable comme enfant caché dans une famille de paysans dans l'ouest de la France. Je ne développe pas non plus l'intérêt de l'ensemble de l'œuvre de Roman Wisniak sur ce que le bundiste Raphaël Abramovitch avait nommé le monde disparu, The Vanished World, hein, dans un livre publié dès 1947, bien avant Wisniak lui-même, qui s'est approprié le titre en 1983. Un des derniers exemples avec Au vous, frères humains, ce magnifique travail de Luz, un des dessinateurs de l'équipe de Charlie Hebdo, qui a réchappé au massacre, à partir d'un texte de 72 d'Albert Cohen qui raconte comment en 1910, Albert Cohen s'est fait traiter par un camelot de sale youpin, je vois ça, à ta gueule, fermez les guillemets. Alors très vite, l'exemple de Jules Adler aussi est intéressant de ce point de vue, puisque c'est un peintre qui a été totalement, parfaitement intégré dans la société française de la fin du 19e et du début du 20e, hein, juif franc-comtois d'une famille israélite, et qui se retrouve interné pendant l'occupation et qui a laissé d'admirables portraits des internés comme lui à l'hôpital Rothschild à Paris, qui était l'antichambre de Drancy pour les malades. Voilà, je conclue avec la prochaine exposition qui ouvre en juin et qui, j'espère, ira à Berlin. En tout cas, il en est question avec Eti Berg, Chagall Modigliani-Soutine, qui aborde notamment la problématique de l'antisémitisme à travers le fait qu'en 1923, le Salon des Indépendants auquel pouvaient exposer tous les artistes vivant à Paris, quelle que soit leur nationalité, le comité du Salon a décidé de les classer au lieu de les classer par ordre alphabétique, de les présenter par nationalité, en rupture complète avec sa tradition d'accueil, en quelque sorte. Hein. Je rappelle que le comité était présidé par le peintre Paul Signac. Ça a suscité ce qu'on a appelé la querelle des indépendants. À cette occasion, le Mercure de France, qui est une très prestigieuse revue de la maison Gallimard, hein, je le dis pour nos amis Eti et Darius, avait publié un numéro intitulé « Existe-t-il une peinture juive ?» dans lequel on retrouvait absolument tous les lieux communs, tous les poncifs antisémites. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que le critique d'art André Varnaud avait forgé l'expression « École de Paris hein, » pour désigner cette myriade d'artistes juifs et non-juifs de toute l'Europe qui étaient venus à Paris dans l'entre-deux-guerres. Voilà, alors je conclus en montrant la couverture d'un livre à paraître le 2 juin, Nos artistes martyrs. C'est la première traduction française, c'est la première traduction tout court d'ailleurs, d'une somme absolument fondamentale, publiée en 1951 en yiddish par un journaliste polonais vivant à Paris, Hersch Fenster, sur 84 artistes déportés et assassinés ou morts de dénuement en France pendant l'occupation. C'est un livre du souvenir autant qu'un livre d'histoire de l'art, qui est vraiment la référence sur toute cette génération d'artistes de l'entre-deux-guerres. Et un livre de plus de 300 pages, évidemment, tiré à compte d'auteur à 300 exemplaires. En yiddish, on peut dire qu'il n'avait été lu que par de très rares historiens de l'art yiddishophones. On peut dire qu'ils doivent se compter sur les doigts d'une main. Nous lui consacrons une exposition qui évoque un certain nombre de ces artistes. Et là aussi, je reviens à ma proposition de début. L'antisémitisme n'est pas l'arrière-plan de l'exposition. Ce que nous montrons, ce sont les œuvres et les visages des artistes eux-mêmes, notamment à travers un certain nombre de portraits ou d'autoportraits. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Paul Salmona. I'll switch back to English because it's going to be easier for the two of you.
Je vais maintenant parler en anglais. Before asking any question, basically. De poser les questions, je voudrais souligner quelque chose qui ont été abordés par Darius Stoller et Hetty Berg. Je ne ferai pas une telle différence entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme. Ce n'est pas aussi évident. Par exemple, il y a des œuvres en Espagne ou Portugal en même temps, les dernières œuvres de Martine Rousseau contre les Juifs montrent que c'est aussi une question de race, même si la biologie pour justifier la race n'existe pas, ce n'est pas évident. Je comprends très bien qu'à des fins d'exposer dans des musées en face la distinction, mais je ne dirais pas que c'est la même chose. Et nous avons bien vu que à l'époque médiévale, ce qui ressemblait à l'antisémitisme a apparu avant l'époque qu'on avait cru au départ. Et donc, à vous trois, vous avez parlé des lieux. De la place que devait avoir l'antisémitisme dans le contexte de l'histoire des Juifs, mais on peut constater que l'antisémitisme est de retour à divers degrés sur la scène politique, le pire étant aujourd'hui en Pologne, et Darius Stola doit affronter ceci. Donc, est-ce que je pourrais vous demander à chacun d'aborder brièvement, il nous reste 10 minutes, pour dire ce qui a changé par rapport à la montée de l'antisémitisme renouvelé qui se trouve dans toute l'Europe, et qu'est-ce que cela va changer pour l'histoire des Juifs. Darius, si vous voulez commencer, et puis Hetty pourra continuer. Je ne sais pas si la Pologne, c'est le pire en matière d'antisémitisme en Europe. Parmi vous trois, c'est le pire. Je ne vais pas me mettre en concurrence avec mes collègues français et allemands, mais il est clair qu'il y a eu un tournant l'année dernière, qui est une association entre une politique populiste. La politique populiste en Pologne, c'est vraiment le nationalisme de droite. Nous avons un gouvernement populiste qui, dans le même temps, est un gouvernement qui, si on cherche à trouver des alliés pour bloquer des velléitudes anti-israéliennes, vous les trouverez là. Donc, c'est très complexe. Il y a une exploitation de la xénophobie dans son ensemble. Donc, le parti populiste a remporté les élections et il insiste sur le fait qu'il n'est pas antisémite. Les dirigeants de ce parti affirment qu'ils ne sont pas antisémites, mais ils tolèrent l'antisémitisme et les antisémites. Ils harcèlent les historiens. Donc, c'est une situation un peu curieuse. C'est un nouveau type de situation, en tout cas pour l'Europe de l'Est. Cette approche extrêmement claire, xénophobe et anti-Israël. Donc, notre exposition pour le 50e anniversaire de la campagne anti-sioniste, anti-israélienne, qui était bien sûr anti-juif. Donc, la blague en 1968 était, un garçon demande à son père, « Papa, comment est-ce qu'on appelle sioniste ? Avec un S ou un Z ?» J'en sais rien, mais avant la guerre, ça commençait par un J. Donc, j'ai pensé que ce serait une occasion en or de soulever le sujet de l'antisémitisme, parce que ça a été la dernière campagne qui a fait du bruit, campagne antisémite qui a fait du bruit il y a 50 ans, donc une campagne récente, exprimée en des termes modernes, non plus comme au 19e siècle. Donc, c'est quelque chose que l'on connaît, mais qui avait été mené par le gouvernement communiste. Et pourtant, personne ne défendrait un gouvernement communiste en Pologne aujourd'hui. Donc, j'ai pensé que personne ne nous attaquerait, et pourtant, les médias de droite nous ont attaqués avec véhémence. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas de différence entre la Pologne d'aujourd'hui et la Pologne de 1968, ce qui est totalement faux. Mais détracteurs ne supportaient pas qu'à la fin de notre exposition, nous ajoutions quelque chose de temporaire, sur le temps présent. Par exemple, demander à des artistes de donner leur point de vue sur des événements passés ou autres. Et donc, dans ce cas, nous avons présenté des citations issues des réseaux sociaux qui ressemblaient de façon frappante à des citations qu'on pouvait trouver dans les années 60. Et souvent, ces citations provenaient de journalistes extrêmement proches du gouvernement. Donc, on voyait une ressemblance absolument frappante. Et donc, ceci a marqué le début de critiques extrêmement désagréables issues du Premier ministre qui a critiqué cette exposition qu'il n'avait pas vue. Alors, bien sûr, ça a été un véritable privilège pour nous. Et nous avons d'ailleurs par la suite vendu 120 000 tickets, ce qui a fait de cette exposition l'exposition la plus vue en Pologne de notre musée. Donc, ceci montre bien cette espèce de sensibilité excessive par rapport au discours du passé. Donc, il y a un ensemble entre la politique culturelle et aussi chercher à s'approprier l'histoire du passé. Donc, un musée, une institution culturelle a présenté quelque chose qui ne rentrait pas dans l'image que souhaitait le parti, que souhaitait montrer le parti au pouvoir. Merci, Darius. Hetty, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le niveau politique concernant la situation en Allemagne aujourd'hui ? Peut-être davantage sur la façon en tant que musée, nous réagissons à cette situation. Je dis toujours que tout ce que nous faisons dans un musée devrait contribuer à permettre de nuancer les idées que les gens entretiennent sur les Juifs. En Allemagne, environ 25 5% de la population allemande depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui a des préjugés à l'égard des Juifs. Et ce pourcentage n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est les moyens d'expression et les lieux où ces opinions sont exprimées, ainsi que le langage utilisé. Donc, dans la dernière décennie, il y a toujours eu des... Ce n'est pas quelque chose de nouveau, l'antisémitisme. On en parle plus dans les médias. Mais pour ce qui nous concerne, le plus important consiste à montrer la vie des Juifs aujourd'hui, que les gens puissent rencontrer la culture juive et la vie des Juifs aujourd'hui. Dans notre société d'aujourd'hui. Et bien sûr, ce qui nous limite, c'est le fait que les gens qui se rendent à notre musée sont des gens qui ont déjà un intérêt préalablement à venir au musée, ou parfois, bien sûr, il s'agit de visites de scolaires, mais les gens qui ont ces idées antisémites ne vont jamais venir dans notre musée. C'est ça le problème, parce que ce n'est pas un endroit où ils vont se rendre. Donc, nous cherchons à savoir comment atteindre tous ces gens qui ne viennent pas dans notre musée. Et puis, il y a également la transformation numérique qui constitue un aspect très important qui prendra une importance encore plus croissante. Donc, nous cherchons à avoir une présence constante sur les réseaux sociaux, mais c'est là que s'exprime le plus de préjugés à l'égard des Juifs. Et les expressions de l'antisémitisme sont jetées à la vue du monde entier sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que dans nos efforts de sensibilisation, nous nous rendons dans les établissements scolaires, nous ne recevons pas simplement des scolaires, et sur les plateformes numériques, nous cherchons à avoir une présence forte et trouver de nouveaux moyens faire passer le message et nous faire passer des connaissances fiables sur l'histoire des Juifs, la présence des Juifs en Allemagne, pour essayer de montrer la vérité à côté de toutes ces expressions complètement folles d'antisémitisme qui sont de plus en plus répandues.
Est-ce que je peux réagir sur votre remarque ? Alors moi, je partage avec vous l'inquiétude que peut avoir la communauté des historiens à l'égard de ce qui se passe en Pologne quant au travail historiographique qui est fait sur la Shoah, mais sur la qualification de pire situation, je ne suis pas sûr. Si on récapitule, en France, Copernic en 1980, Goldenberg, rue des Rosiers en 1982, les profanations au cimetière de Carpentras en 1990, je ne dénombre pas les morts parce que je n'ai pas les chiffres précis en tête. Ilan Halimi en 2006, c'est crapuleux, les deux premiers étaient de procédance palestinienne. Ozar HaTorah, donc un meurtre que je qualifierais d'islamo-fasciste. Hyper Kacher, 2015. Le musée juif de Belgique, 2014, pardon, je l'oubliais, 4 morts. C'est pas la France, mais on n'est pas très loin. Et ça nous a, nous, beaucoup touchés, hommage, parce qu'on a réalisé à quel point on pouvait, nous aussi, être des cibles. Et puis, je conclue évidemment avec Sarah Halimi, 2017. Je ne sais pas si on peut dénombrer autant de morts juifs en Pologne ou en Allemagne. Bon, voilà.
Je parlais de la situation politique.
D'accord.
Et pas de la violence extérieure.
J'appellerais ça, c'est aussi une situation politique. Maintenant, c'était juste pour faire un point, comment dire, de regard sur nous-mêmes en France, et sur la difficulté qu'un certain nombre d'hommes politiques français ont à qualifier la violence islamiste d'islamo-fascisme, ce qui me paraît être une comment dire, une nécessité. Mais voilà, je voudrais revenir au point précédent que vous souleviez sur antijudaïsme et antisémitisme. Je ne pense pas que le musée puisse rentrer en profondeur dans les détails sur ces nuances-là, mais je pense qu'il peut évoquer les formes que prend l'antijudaïsme au Moyen-Âge. Hein. Dans notre cas, évidemment, il évoquera dans le futur parcours, puisque nous avons un projet de refonte complet, les expulsions médiévales, qui sont très mal connues, hein, qui sont au moins au nombre de 5, si on prend différentes régions, et puis des actes comme l'autodafé de Bible et de Talmud, enfin de Talmud sur la place de Grève à Paris en 1242-1244, après une disputatio entre guillemets entre des rabbins et des ecclésiastiques, et puis l'antisémitisme moderne qui est on peut toujours discuter, les historiens discutent bien entendu des liens entre les deux, mais qui est véritablement une nouveauté dans la France de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui au contraire jusque-là se caractérisait par cet extraordinaire vortex intégrationniste à l'égard des Juifs depuis l'émancipation. Voilà, mais j'arrête là.
Merci. Mathias, tu voulais…
Il y a une question qui avait été posée tout à l'heure, donc peut-être vous la transmettre, même si elle avait été déjà partie reprise. C'était Martin Cohen qui l'avait proposée. Je vous la repose. Peut-être, voilà. Qu'en est-il dans ces musées de l'actualité de l'antisémitisme en Europe? Donc, évidemment, il y a déjà eu des éléments de réponse. Voilà. Si vous voulez peut-être juste réagir de nouveau, sinon, je pense qu'on a déjà beaucoup abordé beaucoup de choses cette matinée.
I think that we show in the entire.
Je pense que nous, dans notre collection permanente, nous parlons de l'anti-juif, l'anti-religion juive. Oui, nous essayons de l'exposer en essayant de parler également de l'actualité. Dans notre pédagogie, c'est très important. C'est peut-être, il y a peut-être que là que nous pouvons avoir un impact. Donc, en travaillant avec ces groupes d'enfants, on essaie de faire en sorte qu'ils commencent à réfléchir eux-mêmes. Déjà dans la discussion, au Moyen-Âge, comment est-ce qu'on appelait l'antisémitisme? Il faut vraiment le traduire de façon basique pour que les enfants y réfléchissent, qu'ils se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire quand on utilise tel ou tel terme? On parle aussi des pogroms. Et puis, donc, on parle de ces choses-là. Et ces enfants ont des origines très différentes et parfois, ils peuvent être également victimes de discrimination. Et donc, c'est important de parler de discrimination en général. Donc, dans la collection permanente, on parle de tous ces sujets et c'est dans ces secteurs-là qu'on organise la plupart de nos événements pédagogiques. Paul a parlé, a donné une liste très impressionnante d'expos temporaires. Et nous, on essaye d'être contre ces idées un musée juif doit parler de la Shoah, du Holocauste et des juifs morts. Nous essayons de montrer également la culture très riche, les nouvelles expressions de vie des juifs en Allemagne et surtout à Berlin. Et nous essayons de nous éloigner de cette espèce de pensée prédéfinie qui associe les Juifs et l'antisémitisme et les assassinations du Shoah. Et au fur et à mesure que la situation politique se détériore, je suis de plus en plus motivée de faire ce travail et de voir ce travail fait dans les musées d'Europe. Je pense que les musées ont un rôle très important à jouer. J'aimerais rajouter quelque chose à ce que disait Etty. Le, l'arrivée des politiques populistes et la xénophobie. Il y a quelques années en Pologne, ce qui était un peu différent, c'était le sentiment anti-réfugiés du parti populiste. Et ils étaient particulièrement contre les réfugiés musulmans. Et en fait, il fallait expliquer ces populistes détestaient autant les juifs que les musulmans. On sait que les préjudices anti-musulmans prévoient généralement à 80% des sentiments anti-juifs aussi. Donc, il faut expliquer la nature des préjudices et de la discrimination qui touche non seulement l'antisémitisme, mais d'autres formes de racisme et de préjudice aussi également. Mais je pense que la stratégie dont parle Haïti, c'est-à-dire de présenter le côté positif, l'histoire, la richesse de l'histoire, c'est-à-dire ne pas suivre l'agenda défini par les antisémites, mais plutôt définir notre propre programme et laisser les antisémites définir le leur. C'est ce qu'on pourrait appeler un avantage stratégique. On décide nous-mêmes du sujet et de la manière dont on va parler de ce sujet. Et souvent, l'antisémitisme est basé sur des théories de complotisme et les mouvements radicaux comme le mouvement communiste au début du XXe siècle. Et nous essayons de montrer la diversité des réponses face à ces mouvements et pourquoi ce musée juif dans les années 20 était quelque chose de radical. C'est plus intéressant que de répondre aux accusations, parce que quand on répond aux accusations, on suit le programme défini par nos amis.
Paul, un dernier mot.
Oui, non, juste pour dire évidemment que je suis d'accord avec mes collègues. Je remercie Eti pour cette convergence qui n'est pas nouvelle. Je voudrais juste ajouter que le musée, en tout cas les salles du parcours permanent, la core exhibition, comme on dit à Pauline, à Varsovie, ou même les expositions temporaires, ne sont pas des médias qui se prêtent tellement à l'actualité, indépendamment de ça. C'est inhérent à leur nature. Une exposition temporaire, c'est lent à évoluer par définition, c'est complexe, c'est lourd. A fortiori quand c'est des œuvres et pas des facsimilés. En revanche, il y a d'autres lieux dans le musée comme les lieux de la médiation ou l'auditorium ou les séminaires à la bibliothèque, comme il y en a, qui en revanche se prêtent évidemment beaucoup mieux au traitement de l'actualité. Il ne faut pas envisager le musée uniquement comme des simèses, mais comme une multiplicité de services ou de fonctions.
Je pense qu'on peut, oui, on peut s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à la fois Tal Brotman de votre discussion, de la manière dont vous avez animé le débat. Je remercie évidemment chaleureusement Haïti Berg, Darius Stola et Paul Salmona de leurs interventions.